sauf s'il nous amène à lutter contre le logiciel privateur et l'éliminer. Parce que parfois, quelque chose beaucoup pire arrive, comme l'élection d'un fasciste comme président des USA. Mais tu sais, le fascisme, c'est la politique de fâcher les gens. Et c'est comme ça qu'il attire des sots à leur suivre et se faire des outils, des armes dans l'armée contre la démocratie, contre la délibération publique pour choisir que faire. Est-ce que je dois dire plus? Je suppose qu'en principe, ça suffit. Mais il y a d'autres points à expliquer. D'abord, il y a le gauche d'auteur. Vous connaissez le droit d'auteur. Le droit d'auteur existe dans des lois. Ce n'était pas un choix pour moi. Mais le droit d'auteur, par défaut, rend privateur tout programme. Et surtout après la Convention de Berne, toute œuvre est sous droit d'auteur par défaut. Donc, toute œuvre interdit la redistribution de copies, interdit les versions modifiées. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Évidemment, il fallait octroyer aux utilisateurs d'une œuvre les quatre libertés explicitement, et ça s'est fait par une licence. Les auteurs, ou plus correctement, plus strictement, les détenteurs du droit d'auteur de l'œuvre doivent présenter une licence autorisant la pratique des quatre libertés à tout possesseur d'une copie. Et donc, comme ça, l'œuvre est libre. Si l'œuvre est dans le domaine public, oui, n'importe qui peut faire ces quatre choses. Mais le problème de ça, c'est que chaque personne qui fait des changements, qui produit une version modifiée, pourrait imposer son droit d'auteur sur la version modifiée et donc le convertir en un programme privateur, pas libre. Nous disons privateur parce que ces œuvres privent de la liberté à ses utilisateurs. Donc, je ne voulais pas offrir à tout le monde de faire ces versions modifiées privatrices. Ça ne servirait pas le but. Mais comment l'éviter? J'avais l'idée de mettre une licence autorisante explicitement les quatre libertés, mais avec des conditions que chaque version redistribuée, publiée, soit libre de la même manière, avec la même licence. Comme ça, quand une œuvre est publiée sous la licence publique générale de GNU, tu as le droit de faire des changements et publier cette version, en distribuer des copies quand tu veux, les donner, les vendre, mais il y a la condition que quand tu le fais, ta version doit en son totalité porter cette même licence, la licence générale publique de GNU. Ça, c'est le gauche d'auteur. J'ai trouvé le droit d'auteur est fait comme instrument du pouvoir des puissants sur le public. Moi, je l'ai converti en instrument de libération de tout le monde. Et donc, je vous encourage de mettre sous gauche d'auteur vos programmes. Il faut expliquer que gauche d'auteur est une traduction littérale de copyleft. C'est la même blague. Je ne pouvais pas résister. L'opportunité de traduire un jeu de mots en autre langue de manière qu'il fasse du sens, ah, c'est irrésistible. Mais enfin, le gauche d'auteur sert les buts de la gauche politique. Diffuser l'égalité et le bien-être à tout le monde en lieu d'agrandir la puissance des puissants. Et j'ai implémenté le gauche d'auteur avec en écrivant la licence publique générale de GNU. Maintenant, nous utilisons la troisième version. Mais tous ont eu le même but. Et donc, je vous encourage de libérer vos programmes de cette manière spécifique. Mais pour des conseils pour le choix de licence pour une œuvre libre, je vous recommande gnu.org/licenses/license-recommendations.html. Donc, mais si vous utilisez un programme privateur, pour quoi que ce soit, ce doit être considéré un problème de justice. Et donc, il faut chercher la manière de le résoudre, de le curer. Il y en a beaucoup de tels problèmes. Et nous ne pouvons pas supposer que dans un an, nous pouvons corriger tous les problèmes que nous avons. Mais il faut chaque année faire du progrès, avancer dans le remplacement des programmes privateurs par des libres. Il faut reconnaître que chaque programme privateur est une injustice. Et maintenant, ce programme privateur peut arriver dans un électrodomestique, dans un produit physique qui contient du logiciel et vous interdit de le remplacer. Ce doit être illégal, enfin. Ce doit être interdit. Quand un produit est capable de se communiquer, son logiciel doit être tout à fait libre, sans exception, ça veut dire. Tout morceau de logiciel dedans devrait être libre s'il n'est pas écrit à jamais dans le support physique. Si le changer est possible pour quelqu'un, il doit être possible pour vous. « Il y a beaucoup de controversées sur des programmes que les gens ont l'habitude d'appeler l'intelligence artificielle. Je le dis comme ça parce que je trouve que cette catégorisation est incorrecte et je le rejette. Je ne les appelle jamais l'intelligence artificielle. Pas ces programmes célèbres. Quand les gens... Il y a des programmes, mais je dois expliquer les concepts. Que signifie l'intelligence? C'est la capacité de comprendre ou savoir quelque chose, au moins dans un domaine spécifique. L'intelligence n'est pas forcément générale, elle peut être très spécifique. Mais si une machine est capable d'apprendre et comprendre dans un domaine spécifique des faits pertinents, des conclusions, en ce cas, il mérite le nom d'intelligence. Et il y a des programmes qui le font. Par exemple, des programmes pour distinguer qui fonctionnent par l'apprentissage automatique. Mais enfin, ils comprennent faire la différence. Ils ont appris faire la différence. Donc, je la considère de l'intelligence, un exemple de l'intelligence artificielle, bien que limitée. Mais il y a aussi des programmes très célèbres, par exemple ChatGPT, qui ne... Ah, combien intelligent est un chat, en tout cas? Non, mais ces programmes ne sont pas intelligents parce qu'ils ne comprennent rien et ne savent rien. Jamais. Quand ils génèrent des textes, ils le font en mélangeant du texte de plusieurs phrases sans comprendre la sémantique. Ces programmes ne peuvent jamais comprendre la sémantique de n'importe quoi. Ils génèrent des textes sans comprendre ces textes parce qu'ils ont digesté des textes, d'autres textes sans les comprendre. La capacité de comprendre le texte n'existe pas en ces programmes. C'est comme ça que je sais qu'ils ne le font pas. La méthode de conception ne comprend pas de connaissances ni de compréhension. Donc, nous pouvons être certains du commencement que ce programme ne comprend rien et ne sait rien. Et c'est comme ça que souvent on trouve des erreurs absurdes. Quelque chose d'intelligent qui comprenait le texte qu'il génère n'aurait pas fait de telles erreurs si évidentes. Mais il le fait parce qu'il n'est pas intelligent. Mais quand les gens croient que ces programmes sont des exemples de l'intelligence artificielle, ils supposent que ces programmes comprennent quoi que ce soit. Quand le programme génère du texte, il suppose que ce programme comprend ce texte, qu'il ne fait pas. Donc, cette expression intelligence artificielle appliquée à de tels programmes est de la propagande fausse. Et ça, l'utilisation partout de cette expression quand on parle de ces programmes a convaincu le public que ces programmes soient intelligents. Ils supposent presque tout le monde qu'on peut se confier de tels programmes. Ce qui est une erreur toujours, parce que ces programmes ne savent pas distinguer l'erreur de la vérité. Quand ils croient qu'on peut économiser du temps de travail en l'utilisant, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas la perte de temps qu'il faudra pour vérifier laborieusement que la texte généré est complètement correct, ni souffrir les conséquences quand il n'est pas correct. Il y en a qui, dans les universités, qui enseignent aux étudiants d'utiliser ces programmes dans leurs études, mais ça veut dire utiliser une source sans auteur, pas vérifiée d'aucune manière, ça veut dire très mauvaise recherche, d'être c'était une sottise d'étudier. Ce qu'il faut est d'enseigner au public que ces programmes ne savent pas ce qu'ils disent, et donc il faut les rejeter. Et je crois que la manière efficace de le faire, la masque a tombé. Et il faut couvrir le nez aussi pour fonctionner vraiment, pour protéger ma vie ou votre vie. Donc, je crois qu'il faut rejeter et critiquer cette expression quand il soit utilisé en relation avec ces programmes-là. Mais le programme qui regarde un insecte et distingue les guêpes qui tuent les abeilles des autres guêpes, en ce cas, ce programme paraît de le faire mieux qu'un humain, donc j'accepte que c'est de l'intelligence. Donc deux cas très différents. Le point, c'est qu'il faut refuser d'agrouper tous ces cas. Il faut les distinguer et les décrire différemment. Et il faut le faire une matière de règles. Quand il s'agit de ces programmes générateurs de bouses de vache, en anglais je dis « bullshit generator », il faut reconnaître que ce n'est pas intelligent. Il faut le montrer aux autres que ça n'est pas intelligence. Un des obstacles à l'adoption du logiciel libre, c'est que beaucoup d'entreprises ont fabriqué des relations, des communications entre copies du même programme, de manière qu'une fois il y ait assez d'utilisateurs qui utilisent le programme P pour se communiquer, ils deviennent, qu'ils le veulent ou pas, des agents de pression aux autres, pressionnant aux autres qu'ils utilisent aussi le programme P. Par exemple, Zoom. Des universités ont rapidement adopté le programme Zoom. Et maintenant, quand quelqu'un refuse d'utiliser Zoom, est pris à l'université de rendre disponible la participation d'autre manière, l'équipe de l'université dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est Zoom ou rien. Et presque tous se rendent. Pas moi. Si quelqu'un me dit c'est Zoom ou rien, je dis donc c'est rien. Au revoir. Je refuse. Pas seulement pour maintenir ma liberté, mais aussi comme devoir à la société. Si je suis le premier à m'opposer à l'utilisation de Zoom, bon, je serai le premier. Qui sera le deuxième? Enfin, nous pouvons sommer à une force capable de faire changer les universités et les autres institutions, les groupes qui font le mauvais parce qu'une entreprise a arrangé que le mauvais soit le plus facile. Quand le mauvais est le plus facile, c'est une situation où il faut des héros pour résister, bien que ce ne soit pas commode. Mais enfin, c'est le chemin à un monde, à un meilleur monde. Et une fois que tu commences à le reconnaître dans le monde, tu verras que c'est très commun, que les affaires sont structurées ici. Les entreprises se battent pour qui peut arranger que se rendre à cette entreprise est le plus commode. Et les humains ne sont que des cibles à capturer. Sauf quand ils ont la force de refuser. Une autre chose importante est de ne pas utiliser le logiciel privateur et ne pas t'identifier pour les paiements. À 1972, plus ou moins, quelques-uns ont publié un article sur le danger de l'adoption d'un système de paiement qui identifie chaque paiement. Ce sera une base très commode pour la répression. Si l'État a l'accès à cette base de données, et bien sûr, il l'aura toujours. Il pourra utiliser ces données pour exercer le contrôle orwellien de tout. Mais ça existe plus ou moins. Mais il est possible de se soustraire de ça. Et je le fais. Pas seulement parce que je n'aime pas être surveillé moi, mais parce que c'est mon devoir pour la société, pour aider les autres à s'échapper de la surveillance orwellienne. Et la manière la plus simple est de payer en liquide. Quand je vais à une boutique et j'achète, je paye en liquide. Toujours. Je refuse de faire autrement. Je dis pas de liquide, pas de vente. Parce que c'est ma politique. Ils ne peuvent pas me forcer d'acheter. Donc, je n'ai jamais utilisé ni Amazon, ni n'importe quel vendeur en ligne. Il faudrait pas seulement utiliser un système qui m'identifie, mais aussi je devrais dire au vendeur mon adresse. Et je ne veux pas faire ni l'un ni l'autre. Donc, nous avons développé un système de paiement anonyme pour le réseau. Et il s'appelle GNU-Taler. Le payeur est anonyme et celui qui reçoit les paiements n'est pas anonyme. Le marchand devra toujours s'identifier pour ne pas pouvoir évader les impôts. Mais le payeur est mathématiquement anonyme. Si le système est bien implémenté, il est impossible pour que le récipient de l'argent dit, il peut vérifier qu'il a été payé par un jeton valide, mais ne peut pas, ni lui ni la banque peut établir qui a obtenu ce jeton. Ce système fonctionne officiellement maintenant en Suisse. N'importe quel Suisse peut faire un compte bancaire et avec cela acheter des jetons tout à l'heure. Maintenant, il faut avoir plus de boutiques numériques qui acceptent les talers. Mais n'importe quel marchand peut le faire maintenant. L'idée est de commencer par les boutiques numériques parce que comme ça, pas besoin de donner une adresse d'où livrer le produit. Mais ça est possible. Peut-être quand il y a assez de demandes, il peut y avoir un système où le marchand peut se faire d'accord avec l'acheteur de livrer le produit dans un bâtiment avec beaucoup de boîtes pour que l'acheteur retrouve le produit un jour. Comme Amazon a fait. Mais chez Amazon, il n'y a pas d'anonymat. Ce n'est pas pour ça. Mais avec le même système physique peut être utilisé pour la possibilité d'acheter les produits légaux de cette manière. Je n'entends rien. J'ai des problèmes auditifs.
Non, mais
je n'entends pas. Je n'entends pas les mots. Mais si vous parlez fort et lentement, articulant bien chaque consonne, je pourrais entendre, je veux entendre.
Très bien. Je disais juste, le système dont vous parlez, il faut le numéro de téléphone, le numéro de portable.
D'Amazon. Oui, mais évidemment, Amazon n'essayera pas d'agir justement. Mais le fait qu'il est possible d'établir de tels groupes de boîtes démontre que c'est possible.
Ça voudrait dire concrètement que l'acheteur deviendrait un numéro.
Quoi?
Concrètement...
Il y a une faute de compréhension entre nous à ce
moment.
Oui,
je crois.
Je ne propose pas de faire exactement ce qu'Amazon a fait.
D'accord, ça j'ai compris.
Le point, c'est que on pourra réserver l'utilisation d'une boîte pour quelque temps, peut-être payant en jetant tout à l'heure donc à l'anonymat, mais le lieu de réception du paquet sera payé un petit peu. Et puis, tu recevras un code pour ouvrir la boîte quand le paquet soit arrivé. Et avec le même code, tu pourras savoir quand ce produit soit livré. Et donc, il sera possible, même pour les achats et livraisons physiques, de le faire à l'anonymat.
Oui, mais je ne comprends pas comment est-ce que la communication se fait.
Par le réseau, peut-être à travers le réseau Tor.
Ah, voilà, oui. OK.
Parce que quand on considère la liberté nécessaire pour maintenir une société libre, il faut limiter l'accès aux données personnelles de l'État. Et classiquement, il y a des systèmes pour le limiter. Aux États-Unis, la police n'a pas le droit de fouiller où ils veulent. Non, il faut aller au tribunal et présenter des évidences pour obtenir un ordre. Et cet ordre autorise de fouiller des lieux spécifiés. C'est selon la Constitution. Et comme ça, le pouvoir de la police est limité. Peut-être pas limité assez, mais ça, c'est une question de détail. Mais sans de telles règles, le pouvoir de la police est illimité. Et c'est évidemment injuste et dangereux. Donc, il faut limiter aussi le ramassage des données personnelles par le numérique. Je trouve que le GDPR est bien... cherche à faire des améliorations du système. Mais il commence avec une erreur. L'erreur est de dire protection des données. Mais ça c'est le mauvais concept. Le problème n'est pas que les données ne soient pas protégées, c'est que les données soient ramassées. Des données personnelles ramassées seront un jour abusées. Donc, il faut limiter le ramassage des données, mais pas seulement par des lois interdisant le ramassage, parce que des entreprises peuvent facilement violer cette réglementation. Et ils le feront souvent. Ah, s'ils sont punis comme des voleurs qui attaquent dans la rue, peut-être ils n'oseront pas le faire. Mais normalement, l'application de telles réglementations est faible. Et donc, les entreprises les ignorent tout le temps. Mais si la loi exige que les systèmes installés ne soient pas capables d'espionner les personnes, il sera beaucoup plus difficile Je ne sais pas le dire pour refuser de suivre une loi. De dire « je m'en fous de cette loi ». Est-ce qu'il y a un verbe pour, qui signifie ça?
Transgresser.
Vous pouvez le dire plus fort?
Transgresser.
Quoi? Je n'ai pas entendu. De toute manière, si la loi exige que les systèmes ne puissent pas espionner les gens, en ce cas, personne n'oserait installer un système capable de quel mot? Quoi?
D'espionnage.
D'espionner. Peut-être. Je suppose qu'il y a un meilleur verbe que je ne trouve pas. En tout cas, oui, mais ça, c'est la manière de formuler une loi pour éviter que les systèmes soient fabriqués pour espionner, pour ramasser des données personnelles. Mais lesquelles sont les données personnelles les plus sensibles? Peut-être, je crois, ce sont qu'est-ce que tu où vas-tu pendant la journée? Qui est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu leur dis? Ce sont les détails que l'État ne doit pas savoir. Où habites-tu? C'est moins sensible. Dans un pays sans système national médical, est-ce que tu as des maladies? Est très sensible parce que les assurances privées utiliserait de telles excuses pour te maltraiter. Mais avec un système intelligent de santé, il n'y a pas de tel risque.
Je peux vous poser une question personnelle?
Je n'entends pas bien. Est-ce que tu peux parler plus clairement? Je veux entendre ce que vous dites. Ah, je n'ai pas entendu ces mots, c'est dommage. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Richard, je vous disais, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à créer cette société?
Cette
que vous
quoi?
Nous présentez, cette société,
cet
idéal de vie.
Ah,
ah ben, c'est pas grave.
Possible? Je ne sais pas. C'est une question sociale profonde. Est-ce que nous pourrions créer un système honnête? Mais je ne sais pas, mais il y a des grandes variations entre les degrés d'honnêteté de plusieurs pays et plusieurs temps.
D'accord, je ne poserai plus de questions puisqu'apparemment, ce n'était pas prévu, les échanges.
Ça, merci. Je n'ai pas entendu. C'était trop vite pour moi.
Oui, mais c'est...
C'est dommage.
D'accord, je me tais.
Donc, je crois que j'ai plus ou moins terminé, mais est-ce que Pascal ou Pascal, avez-vous des sujets que je devrais considérer?
Il s'agissait de parler d'intelligence artificielle, donc si tu veux renforcer ton discours sur l'intelligence artificielle, pourquoi on ne doit pas dire intelligence artificielle ?
Mais je l'ai déjà dit.
Je sais que tu l'as dit, maintenant si tu veux renforcer ton discours, ou passer aux questions-réponses maintenant.
Donc, est-ce que tu crois qu'il y a plus que je devrais dire au sujet de supposé intelligence artificielle ? Ou vraie intelligence artificielle.
Il y a toujours plus à dire.
Comme quoi ?
La génération des mots statistiquement.
Ah. Si vous saviez comment fonctionnaient ces programmes générateurs de bouses de vache, il serait évident qu'ils ne comprennent rien. Ce qu'ils font quand ils s'entraînent en dévorant beaucoup de textes, ils considèrent la fréquence de trouver un mot dans un type de contexte. Et comme ça, quand ils génèrent du texte, ils procèdent sur un réseau de situations. Et chaque mot va d'une situation à une autre situation dans laquelle il y a beaucoup de mots, chacun avec sa probabilité. Et comme ça, il génère. Il ne peut pas faire des distinctions sémantiques. La seule chose qu'il connaît est le syntaxe. La sémantique de dire A ou B, il n'a rien pour le comprendre. Et pour que le programme fonctionne mieux que ça, généralement, il devrait faire tout au niveau sémantique. Essayer de détecter quelque peu de situations où l'erreur est probable pourrait éviter quelques erreurs, mais n'arriverait pas à un programme qui vraiment comprenne ce qu'il génère.
Richard, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît ?
Mais plus fort que ça.
Promis. Lozi a défini l'intelligence artificielle open source en reprenant les quatre libertés que tu as communiquées. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette définition de l'intelligence artificielle open source ?
D'abord, je ne m'intéresse guère de l'open source. Comme j'ai dit dans la vidéo, open source est une manière de garder plus ou moins les critères pratiques du logiciel libre, mais oublions le niveau moral, qui est le niveau le plus important. C'est une bataille pour la liberté, pour les droits de l'humain. Et si on... Les choses importantes sont perdues et quelque chose peut-être utile reste. Mais les idées d'open source ne contiennent rien pour motiver quelqu'un à lutter, à se battre, en lieu de se vendre. Pour ça, il faut valoriser des choses plus fortes que la commodité. Donc, pour moi, la définition de quoi que ce soit open source ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je suis d'accord à exiger que les quatre libertés s'exigent, mais il faut noter. Et nous sommes en train de développer un critère pour la liberté des systèmes d'apprentissage automatique libre. Ça veut dire pas utilisant l'expression intelligence artificielle, parce que l'apprentissage automatique peut peut être un exemple de l'intelligence artificielle et peut ne pas l'être. Donc, en disant l'apprentissage automatique, nous évitons cette question. Mais aussi, la définition de logiciel libre fait référence au code source. Qu'est-ce qui est inusuel ou différent dans le cas des systèmes d'apprentissage automatique? C'est le fait que le système contient beaucoup de données générées par l'entraînement qui n'ont pas de code source. L'entraînement n'est pas la compilation. Ils sont profondément différents. Et comme ça, donc, le problème posé par les systèmes d'apprentissage automatique, c'est la présence des données sans code source. Qu'est-ce qu'il faut exiger dans ces cas? Et nous avons décidé de ne pas dire ce que les gens d'open source ont dit, mais exactement quoi n'est pas encore complètement décidé. Nous sommes en discussion sur que dire exactement. Mais les données d'entraînement, les œuvres d'entraînement devraient être disponibles de quelque manière. Ça serait une différence entre nous et le groupe open source.
Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Bien sûr.
Non, je vais essayer de parler doucement. Je vous disais l'idéal.
Je vous quoi? Je vous
droit au but.
Si tu peux lui répéter, Pascal. Je revenais sur ma question. Vous n'avez pas pu y répondre.
Qu'est-ce qu'elle dit? Parti et comme.
Droit au but.
Bon,
c'est pas grave.
Voudriez-vous écrire la question? Est-ce, il y a des papiers pour écrire des questions? J'ai dit d'offrir des papiers. Est-ce qu'il y a des papiers pour distribuer?
Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. C'est une question un peu généraliste. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation des logiciels open source dans les administrations publiques?
Cette question ne m'intéresse pas. Je n'utilise jamais
D'accord.
l'expression open source, sauf pour faire la différence entre ça et le logiciel libre.
Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît?
Ça, je n'ai pas entendu. C'était trop vite.
Il n'a pas compris.
Ah,
ta réponse.
Il a entendu,
est-ce que...
mais pas compris. Hein. Le vidéo aussi faisait la différence entre logiciel libre et open source. C'est une question de valeur. La base, le niveau moral du sujet. Donc, je refuse d'utiliser des expressions pour exprimer mes positions qui présupposent des valeurs différentes des miens. Mais peut-être, si vous voulez poser la même question, mais en termes du logiciel libre, en ce cas, je pourrais répondre. Je résiste que le sujet soit changé du logiciel libre en open source.
Il y avait une autre question devant.
Bonsoir, Monsieur Salman. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour pour...
Lentement et plus fort, s'il vous plaît.
Ok, tout doucement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le monde et les États-Unis. Vous avez un nouveau président, Monsieur Trump. Que pensez-vous de l'impact de cette élection sur le monde de la technologie et des logiciels, libres ou pas?
Je n'ai aucune idée de ce qu'il fera au logiciel libre. Mais c'est évident que c'est une alliance des très riches. D'autres les appellent des oligarches. Et ça me paraît incroyable. La résistance, c'est un système presque féodal. Zuckerberg veut être un duc. Donc il fait son hommage.
Oui. Vous avez une question de nouveau sur l'intelligence artificielle? Tout à l'heure, vous avez dit ces programmes ne savent pas ce qu'ils disent, c'est pour ça qu'il faut les rejeter.
Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu le commencement, mais quand vous êtes arrivé à la vraie question, ça c'était trop vite et pas assez clair.
Je réessaie. Tout à l'heure, vous avez dit que l'intelligence artificielle devait être générative, devait être rejetée, car elle ne savait pas...
Rejeter.
Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait.
Les systèmes génératifs, oui. Mais ne les appelle pas intelligence artificielle.
Ma question, c'est que beaucoup d'utilisateurs constatent que ces programmes font ce qu'ils attendent. Et contrairement à ce que vous dites, un certain nombre d'utilisateurs trouvent leur compte avec ces programmes. Et
trouvent leur compte avec...
sont satisfaits. Je suis d'accord sur le fait que ce sont des modèles statistiques et donc difficile de démontrer la véracité de ce qu'ils disent. Mais beaucoup de gens se contentent de l'approximatif.
Oui, mais parce qu'ils ont, eux, de la chance. dans des cas faciles, ces programmes peuvent générer du texte qui est d'accord avec la situation. Mais si vous continuez de le faire, un jour, il émettra un texte pas d'accord à la situation, et si vous l'envoyez au client ou à l'État ou au tribunal ou quoi que ce soit, ce sera un grand embarras.
Probablement.
Ou au professeur, comment ce soit. Ou vous pouvez enrager le client.
Je vais essayer de parler doucement. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas le terme intelligence artificielle.
Que j'ai fait quoi avec le terme intelligence?
Que vous n'aimez pas ce terme-là.
mais ce n'est pas exact. Je dis qu'il y a des systèmes que j'appelle l'intelligence artificielle qui sont les reconnaisseurs de schémas pour distinguer deux cas. Oui, il y en a qui le font aussi bien qu'un humain. Un humain a bien entraîné. Donc ça, c'est intelligent, je crois.
Voilà, vous avez dit que justement, ce n'était pas intelligent. Et du coup, ma question est quel nom est-ce que vous donneriez à la place de intelligence artificielle ? Quel
pour
est le terme que...
Je distingue deux classes de systèmes. Il y a la classe qui essaie de générer du texte ou quoi que ce soit statistiquement sans compréhension sémantique de la commande. Et ça, j'appelle les générateurs de bouse de vache. En anglais, bullshit generators. C'est plus court. Mais il y a des systèmes que je considère de compter comme intelligence artificielle, mais ces systèmes font d'autres choses. Par exemple, distinguer le cancer du tissu normal, et ils ne le font pas parfaitement, mais ni les humains le font parfaitement.
Une avant-dernière question.
Bonsoir, Dr. Stallman. Bienvenue en France. Et merci à toutes les associations de Montpellier et le sud de la France pour ce soir. Le Dr. Stallman est un peu comme mon grand-grand-père. Il a voyagé.
Le grand quoi?
Le père de mon grand-père, il a voyagé en France. C'était un long voyage de l'Australie en 1917 pour la liberté de la France, la liberté de la Belgique.
Ça,
et
je n'ai pas
l'Europe.
Entendu.
Et la liberté
d'Australie pour venir habiter en France, le père de son grand-père.
Il a voyagé de.
My great-grandfather. He traveled to France in 1917 for the
oui.
liberty and freedom.
Depuis où?
Oui. Et, so, doc from Australia.
Ah, oui, c'est long.
A long journey.
Oui.
Vous préférez je continue en anglais?
Okay. J'ai les problèmes auditifs en n'importe quelle langue, mais il paraît... Il paraît
okay.
que vous parlez plus clairement en anglais.
So we found some photos of the Australians in the north of France negotiating with the Germans. So I'm being diplomatic using the word negotiating. Nonetheless, the freedom is not an easy subject. In 2021, there were many attacks on Dr. Stallman. This was a very sad and difficult time for us as developers. I've been a developer since I was 10 years old. In 2021, when people attacked Dr. Stallman, was a terrible time for our community. I was one of the people who stood up for Dr. Stallman. So j'ai publié sur mon blog le soutien de Dr. Stallman. En 2021, contre toutes les attaques. J'ai lancé le site We Make Fedora. So who has seen the dispute over We Make Fedora? Has anyone heard of this dispute? So
I don't remember it.
Yeah, so IBM, Red Hat, Google, and Debian have spent over 100,000 euros plus de 100 000 euros sur les frais juridiques contre mes blogs sur la liberté des développeurs. J'ai publié les comptes, les relevés de comptes. On trouve les relevés de comptes en ligne et j'ai ajouté toutes les frais. C'est plus de 100 000 euros payés ou versés à les avocats par les associations de logiciels libres. Il y a des employés de Google et IBM sur les comités de ces associations. Ce n'est pas le cas ici, mais dans les associations mondiales, il y a toujours un risque. La communauté de la FSFI, la FSF Europe, n'est pas la même comme la FSF, il n'y a pas la même association. Ils ont un nom similaire.
La question?
Oui. Oui. So there is a. Is there still an agreement between the FSF and the FSFE? Is the FSFE authorized to continue using a name like the FSF to ask people for their money and their time when they are giving this money to lawyers to attack developers?
I couldn't understand. Je ne pouvais pas entendre tous les détails de ce que vous disiez.
So you know
the difference entre l'FSF et le FSF Europe. C'est une organisation indépendante. Et comment le résoudre, je ne sais pas. Nous ne savons pas. Ce problème existait avant 2021. Ça existe depuis peut-être 8 ans, je ne sais pas.
Merci pour l'explication en français. Vous avez confirmé qu'il y a un problème qui existe depuis longtemps. Merci, Dr. Stallman.
On peut discuter de ça après, peut-être, vu la complexité de la question. Et une toute dernière question qui a été posée là-bas.
Est-ce que vous pensez que open source, c'est une mission de l'humanité?
Est-ce une mission de l'humanité?
L'univers n'est pas open source.
Je ne comprends pas. Je suis totalement perdu.
Do you think open source is a mission of mankind?
A mission?
Yeah.
Open source, la différence entre logiciel libre et open source, c'est que open source refusait l'idée d'être une mission.
L'univers n'est pas open source, et c'est grâce au travail de chercheurs, de physiciens et d'astronomes que l'on parvient à comprendre et à rendre l'univers intelligible et bien documenté.
Non, l'univers n'est pas un système conçu par qui que ce soit. Ce n'est pas il n'avait jamais de code source. Il seulement existe. Nous, quand nous trouvons l'univers, c'est comme le rétro-ingénierie. Quelque chose existe. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, donc la rétro-ingénierie, c'est un peu comme la physique. La recherche physique. Et voici un système, mais comment est-ce que ça fonctionne? Ce n'est pas donné comment il fonctionne. Donc, je ne parle pas de l'open source, mais il n'y a pas de code source pour l'univers ni pour le corps humain. Il y a un binaire compilé. mais pas de code source. C'est comme un binaire qui est produit de l'évolution d'un algorithme génétique. Et donc, nous pouvons voir les lettres dans le génome, mais qu'est-ce que ce programme signifie? Qu'est-ce qu'il fait dans le corps vivant? Ça fait, il fait énormément de recherches pour le comprendre. S'il y avait du code source, il serait plus facile à comprendre, peut-être.
S'il n'y a plus de questions dans la salle, nous avons un cadeau à remettre à Richard de la part de nos communautés en Afrique et ailleurs.
On va peut-être applaudir Richard pour sa prestation. Et remise du cadeau. Qu'est-ce que vous...
Voilà.
Oui.
Juste.
Qu'est-ce que je dois faire, l'ouvrir ?
Juste pour te dire, Richard, oui, c'est de la part de toutes les communautés des rencontres amicales francophones du logiciel libre. Il y a dans nos communautés 19 pays, dont 14 pays africains, et ils ont voulu te remercier pour tout ce que tu as pu apporter de bon, pour tous les logiciels libres que l'on peut utiliser.
Ah.
Et donc, en leur nom, nous t'offrons ce petit cadeau.
Une petite explication.
C'est beau.
Alors,
est-ce que c'est traditionnel dans quelques peuples ?
Oui, c'est un masque traditionnel, c'est Noufo. Ça vient du nord de la Côte d'Ivoire, mais c'est un masque relativement moderne. Donc, tu peux l'emporter dans tes bagages sans difficulté. Il n'y aura pas de problème à la douane.
Merci.
Bon, merci à toi, Richard, pour tout ce que tu as fait.
Merci.
Et si vous voulez bien, à côté, nous avons prévu un petit cocktail pour vous recevoir. Quand on fait des rencontres amicales francophones du logiciel libre, on fait découvrir les saveurs de différents endroits. Aujourd'hui, on a pensé à faire un petit cocktail d'outre-mer, un petit cocktail qui vous attend avec quelque chose à manger également.
Bon apéritif.
Il a enregistré, mais je ne suis pas sûr qu'il faut attendre. Rien n'est sûr.